Radio Classique, grand témoin.
Ancien secrétaire général de l'éducation nationale et ancien représentant de l'UNICEF dans plus de 15 pays africains, Jonas Muilambwe Mukalai est aujourd'hui l'invité de grand témoin. Jonas Muilambwe, soyez le bienvenu.
Merci, papa.
Bonne année.
Merci, merci à vous aussi.
Merci beaucoup. Comment allez-vous?
Très bien, comme vont tous les vieux.
Vous avez une expérience de plus de 50 ans dans l'enseignement et vous avez travaillé pendant plus de 15 ans comme représentant de l'UNICEF dans plus de 15 pays africains. Nous allons faire aussi au cours de l'émission le point de l'éducation en RDC, de l'enseignement en Afrique également. Votre lieu de naissance est en Koro, dans la province du Katanga, et votre date de naissance est le 19 mai 1932. En 2007, avec André Chabani Wakalinga, vous publiez aux éditions L'Harmattan, en Koro, entre parenthèses, Katanga, notre village. Parlez-nous brièvement de en Koro.
En Koro est un petit village. Dans les années 40, c'est un petit village d'environ 5000 habitants. Il se situe exactement à l'embouchure de la rivière Louvois. Dans le fleuve Congo, la Louvois, c'est le lac Moero, vers la Zambie, Kasenga, le Luapula, qui après Pweto devient Louvois chez nous, dans le nord Katanga, et se jette juste en face d'Ankoro, dans le fleuve Congo, en apportant des eaux plus claires, alors que le fleuve charrie les eaux des lacs Kisale et Upemba, du côté de Malembankulu et Kalombo, etc. Donc voilà un petit peu pour situer géographiquement Ankoro. Mais il y a également quelque chose qui doit intéresser tous ceux qui nous écoutent, c'est l'origine du mot, d'où vient Ankoro. Dans la langue Luba, chez nous, dans le nord, la lettre R n'existe pratiquement pas. Alors, comment se fait-il qu'Ankoro ait une lettre R? Et cela, c'est tous les problèmes linguistiques entre le colonisé et les colonisateurs. Lorsque les premiers administrateurs sont arrivés chez nous, ils ont demandé où ils étaient, où on est ici. On leur a dit, on a répondu, ha, kolo. Et le ha, c'est deux mots séparés. Ha, c'est la préposition a en français qui indique les lieux. Et le colon ou le colonisateur qui a rapporté cela, au lieu d'écrire ha, il a écrit a. Et il a collé les deux mots en remplaçant la lettre par l, par r. Voilà.
Depuis 1997, vous travaillez comme administrateur chargé de la conception et des études de faisabilité du programme de développement d'Ankoro. Qu'avez-vous déjà réalisé de concret?
Bon, de concret, c'est simplement la documentation d'abord. Quand Musée Laurent Désiré Kabila nous a demandé à 4, plus 4 autres personnes que nous avons cooptées pour faire une équipe cohérente, eh bien, il m'a dit à moi particulièrement, vous, l'homme des Nations Unies, je voudrais que vous alliez avec l'équipe au village et essayer de voir comment concevoir un programme de développement du village. Parce qu'il avait assez de voir nos mamans revenir après 4, 5, 6 heures de travaux des champs, revenir avec des fardeaux lourds sur la tête, ou bien elles rentraient avec une grande bassine de manioc rouillie ou à rouillir. Et il voulait que les choses changent et qu'on puisse rapidement aider les populations à se prendre en charge convenablement et à améliorer leur vie quotidienne. Alors, le programme, nous l'avons conçu en 3 temps. D'abord, déjà avant de partir, nous avons remis au président, à ce musée Laurent Désiré Kabila, nous lui avons remis un document d'une quinzaine de pages dans lequel nous décrivions sommairement ce que pouvait être un programme de développement. Quand nous sommes allés sur place, nous avons recueilli un certain nombre d'informations auprès des populations, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, et nous avons mis en place un programme d'une cinquantaine de pages que nous avons remis à celui qui a voulu initier ce programme.
Donc, on retient que vous êtes au niveau de la documentation.
Nous sommes au niveau de la documentation. Nous avons essayé depuis 2000 de trouver un financement. Quand le président Mzé Laurent Désiré Kabila est décédé, nous n'avons pas laissé tomber les bras. Nous avons continué et préparé des études de faisabilité. Je parlais par exemple maintenant de l'agriculture, pêche et élevage. Il y a le volet santé, le volet éducation, le volet environnement, amélioration de l'habitat et le volet exploitation des ressources énergétique et minière. Donc, tous ces volets ont leurs études de faisabilité que nous avons réalisées à partir de l'année 2002.
Parlant éducation, de 1938 à 1945, vous faites vos études primaires à l'école primaire Saint-Joseph à Ankoro. Les secondaires, c'est à l'Institut Saint-Boniface à Lubumbashi de 1945 à 1952. Vous faites quelle option là-bas?
La seule qui existait, c'était la section administrative et commerciale. Je vous dire que je ne suis pas pédagogue d'origine, j'ai fait l'enseignement par la force des choses.
Vous êtes marié à Madame Stéphanie Ilunga Kichinja et père de cet enfant. Quel genre d'enfant étiez-vous?
Bon, au village, j'étais un enfant tranquille, je ne sais pas pour encenser mon passé et ma jeunesse, mais j'étais un enfant tranquille, très studieux. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai chanté dans la chorale au village, j'ai été acolyte à l'église d'Ankoro, l'église du Sacré-Cœur. Et j'ai réussi, j'ai été en terminant en 45 les études primaires à Ankoro, j'ai été major de ma promotion. Et toutes ces études, il faut peut-être le souligner, je les ai faites en swahili, totalement en swahili. Le français m'était enseigné comme langue seconde.
Je vous invite à suivre le témoignage de quelqu'un que nous avons joint pour vous, qui vous connaît depuis l'enfance.
Je m'appelle André Chabani Wakalenga, ancien député national de la Balobakati en 1960, et puis pendant la Deuxième République, j'étais parti du bureau politique du RPA, et M. Milan, régionaliste, c'est mon ami d'enfance à Ankoro. Nous avons étudié ensemble l'école primaire à Ankoro, puis même nous étions des acolytes de l'église Sacré-Cœur d'Ankoro, là, des cathédrales, et puis même les chantres, oui, on se connaissait, nous étions des amis. Nos parents ont travaillé chez le prêtre. Moi, j'étais un peu mieux turbulent que lui. Lui, j'étais cette jeunesse-là, d'enfance calme. De là, je n'ai pas dans son enfance se battre avec quelqu'un non plus. Lui, il était toujours un garçon tranquille, réconciliant. Et lui, il aimait toujours bavarder, parler de l'histoire de l'école et puis de la pêche, et là on allait nager, aussi à la fleuve Congo, et il était toujours rigolant, et il ne parlait pas beaucoup. Et l'histoire d'Axos, ensemble, c'est de compte autour du feu, le soir auprès de chez lui là-bas, c'est son oncle paternel. Alors c'est là où on allait chaque fois écouter les racontes, chanter et raconter, jusqu'à minuit, et on reste là-bas. Lui était à côté de son oncle paternel là, Modeste Kilaori. Mais nous, on venait de 3 kilomètres, ou 2 kilomètres. La nuit, on rentrait, alors c'est lui qui s'est moqué de nous. Il dit, il y a des hyènes qui vont vous ramasser là-bas en cours de la nuit, comme il n'y avait pas l'éclairage. Et heureusement, il y avait la lune qui éclairait notre village d'Ankoro. Ankoro Sud, bien entendu.
Réaction, Jonas Milan, mais je vous ai senti tout ému, hein?
Oui, c'est effectivement un vieux copain. Nous avons grandi ensemble, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons joué ensemble et c'est un petit peu l'occasion de souligner l'essentiel de la culture que nous avons reçue au village. Peut-être que ceux qui nous ont éduqués plus tard, qui nous ont appris à fréquenter l'école moderne, n'ont pas fait très attention au type de formation dont nous avons bénéficié dans notre milieu traditionnel. Nous ne jouions pas pour jouer. La plupart de nos jeux, c'était des jeux éducatifs. Par exemple, le Wele, comme on joue en Afrique de l'Ouest, c'est le Kisolo, le Nsumbi, une sorte de damier que l'on joue avec des boules. Ça, c'est vraiment l'exercice d'arithmétique.
De 58 à 60, vous commencez vos études supérieures à l'Institut Sainte-Marie à Arlon, en Belgique. Puis de 68 à 69, c'est à l'Institut International de Planification de l'Éducation, UNESCO à Paris, en France. Comment y arrivez-vous?
Bon, j'ai terminé mes études secondaires en 52. J'ai enseigné à Saint-Boniface à des hommes dont j'en cite deux comme ça par hasard, sinon je peux faire une liste. J'ai enseigné au professeur Niembo Chabani, ancien
gouverneur de la Banque centrale
et professeur au campus de Kinshasa. J'ai enseigné à Angus Karibon. Donc j'ai enseigné pendant 2 ans à Saint-Boniface et je suis allé travailler à la comptabilité du collège Saint-François de Sales chez les Pères Salésiens. Ensuite, monseigneur Demptin m'a demandé d'aller enseigner à l'Athénée de la Katouba. Après, on m'a transféré comme agent de l'administration de la colonie. Je suis allé travailler avec le vieux papa Luangui au service du contentieux. C'est à partir de l'an 58, avec M. Jacques Soyer, l'ancien secrétaire général de l'Union minière, je m'occupais de l'ensemble des mouvements de jeunesse catholique et des mouvements de jeunesse de la province en général. Les missions catholiques m'ont désigné avec mon épouse pour aller travailler à l'exposition 58 en Belgique. En Belgique, oui.
Chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Thomas Mouilambou Moukalaï, vous êtes ancien secrétaire général de l'éducation nationale et ancien représentant de l'UNICEF dans plus de 15 pays africains. Vous avez parlé de vos débuts dans l'enseignement en 1952. À votre avis, à quel moment l'enseignement a-t-il commencé sa descente aux enfers ici en RDC?
Il faut peut-être rappeler notre passé colonial. En 1960, l'administration coloniale belge nous a laissé avec un important effectif scolaire au niveau du primaire. Nous avions plus d'1,5 million d'élèves dans l'enseignement primaire. Au secondaire, en 1960, l'effectif était de 58 000 élèves seulement. Toutes sections confondues. Dans l'enseignement supérieur, il n'y avait que 700 étudiants. Et en 60, il y avait à peine une dizaine de diplômés d'enseignement supérieur. Il y a eu une explosion de nos effectifs scolaires. Pour donner encore des chiffres, en 1977, quand j'ai quitté le pays pour rejoindre l'UNICEF à Abidjan, j'ai laissé plus de 4 millions d'élèves au primaire, plus de 400 000 élèves au secondaire, et il y avait 30 000 étudiants dans l'enseignement supérieur. Avec un débit, donc des diplômés, de 5 000 diplômés d'enseignement supérieur, graduats et licences, nous n'avons pas eu suffisamment de moyens, par exemple, pour suivre la progression des effectifs avec des constructions en conséquence. Bon, mais nous avons quand même formé suffisamment d'enseignants. Avec l'IPN, qui était notre école pilote pour la formation du personnel enseignant du secondaire, nous avons créé des ISP, des instituts supérieurs pédagogiques, dans l'ensemble du pays. Nous n'avons pas disposé de suffisamment de moyens pour donner à toutes nos écoles et à tous nos élèves les moyens pédagogiques nécessaires. Et à partir des années 78, les choses ont commencé à dégringoler. Voilà. Parce qu'il y avait trop d'élèves, trop de demandes par rapport à l'offre et très peu de moyens didactiques pour permettre aux professeurs d'assurer un enseignement convenable. Un autre élément, c'est la question des salaires. Les salaires des enseignants n'ont pas suivi l'évolution de notre situation sociale et économique. Conséquence, les enseignants ont vécu des conditions difficiles et même les enfants en famille avec des moyens très limités, les enfants étaient très peu nourris, moins bien nourris, et ils avaient moins de moyens pour aller suivre l'enseignement convenablement.
De 57 à 58, vous êtes agent de l'État au service provincial des affaires politiques, administratives et judiciaires à Lubumbashi, au Katanga. De 60 à 67, vous êtes inspecteur de l'enseignement à Lubumbashi. De 66 à 68, directeur des services pédagogiques au ministère de l'Éducation nationale à Kinshasa. La pédagogie appliquée dans l'enseignement congolais est-elle vraiment adaptée aux réalités du pays, d'après vous?
Bon, nous avons un problème important au départ. Ce problème, c'est un problème d'abord de langue. Pour moi, il faut au départ assurer l'enseignement au niveau même de l'enseignement maternel. Il faut assurer l'enseignement dans la langue de l'enfant. Je ne dis pas dans la langue maternelle, parce que nous sommes à Kinshasa. Mon fils à moi, celui qui est né à Kinshasa, il parlait français à la maison, il parlait swahili et il parlait lingala. Le lingala n'est pas sa langue maternelle, mais il parlait plus lingala quand il se trouvait en équipe avec les autres, ou alors il parlait français. L'enseignement au départ, en maternelle et les deux premières années de l'enseignement primaire devraient se donner dans la langue de l'enfant, ou même dans la langue maternelle, parce que pour certains, il n'y a qu'une langue, c'est la langue maternelle. Si vous allez à 100 km d'ici, à l'intérieur du pays, l'enfant qui naît là, qui a 5 ans, et qui va à l'école maternelle parlera le Kikongo, par exemple, et il ne parlera pas une autre langue. S'il a la chance d'avoir des parents qui parlent français, bon, il s'initiera au français. Donc, c'est déjà une première chose. Il faut enseigner aux enfants sur un socle constitué par les éléments qu'ils maîtrisent convenablement, les éléments de sa propre culture.
De 69 à 72, vous travaillez comme directeur général de l'éducation nationale. De 72 à 77, secrétaire général de l'éducation nationale. Comment relever l'enseignement en RDC aujourd'hui?
Nous avons laissé les choses trop se détériorer. Nous avons eu l'accroissement des effectifs qui n'a pas été suivi par les moyens didactiques pour permettre de faire un enseignement de qualité. Ensuite, les salaires des enseignants constituent vraiment une des piles dorsales. Il faut à tout prix améliorer les salaires des enseignants, sinon on n'en sortira pas. J'ajoute un autre élément, le matériel didactique. Nous avions commencé à l'époque au service pédagogique à fabriquer des échantillons, des modèles de matériel didactique. Il aurait fallu, avec l'aide de l'UNESCO d'ailleurs qu'on a fait à l'époque, mais il aurait fallu continuer ce système et déboucher finalement avec des petites équipes à l'intérieur, avec un descriptif de chaque élément à produire, monter des ateliers et peut-être déboucher sur des grandes usines de fabrication de matériel didactique. Nous avons suffisamment de bois. Je prends un autre exemple. Vous prenez une bille, les grosses billes de bois que vous voyez circuler sur des gros camions.
Les grumes.
Okay, les grumes qui vont à l'extérieur. Je n'ai plus en tête le prix d'un mètre cube de ces morceaux de bois qui partent. Mais je suis sûr, pour donner simplement un exemple, si un mètre cube de ce bois-là coûte 10 000 francs, mais quand c'est parti en Europe et que ça nous revient sous forme des lattes,
c'est plus cher.
Une latte coûte le prix d'un mètre cube de bois. Alors, c'est tout ça qui compte. Je voudrais terminer par un autre élément très important. C'est le manuel scolaire. Nos élèves du secondaire, surtout, continuent à utiliser des manuels belges et des manuels français, qui sont des très très bons manuels, mais qui, de fois, ne correspondent pas à nos programmes. Parfois, pour un élève d'une classe donnée, pour les mathématiques, l'élève est obligé d'avoir un livre français et un livre belge. Et peut-être même un livre canadien pour qu'il puisse retrouver tous les chapitres de son programme de cours de mathématiques.
Alimika kangana ya toka bana, mama maiza ya na moto ya mbongo. Mote mawe ito nina watuti, na kumeka mwongo keko kanga mote mba. Na duwa talo baranga na kango lupango. Mwomba voti mandima, Yeah.
Milamboué, de 77 à 92, vous travaillez comme représentant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance UNICEF dans plus de 15 pays africains. Quand vous étiez basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous représentiez 7 pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Libéria, Bénin, Burkina Faso, Niger. À Dakar, c'était pour 8 pays, Sénégal, Gambie, Guinée-Conakry, Sierra Leone, Mauritanie, Mali, Cap-Vert, à Brazzaville pour 2 pays, République du Congo et le Gabon. Quelle est à ce jour la situation de l'enfant africain?
Les Nations Unies, dans leur ensemble, le FNUAP, l'UNICEF, l'OMS, le PNUD, même la Banque mondiale, toutes ces agences ont essayé d'aider nos différents pays à améliorer la situation de l'enfant africain. Je me souviens dans les années 84-88, l'Italie a donné beaucoup d'argent, 100 millions de dollars à l'UNICEF, demandant d'assurer avec cela la vaccination universelle de tous les enfants. Vaccination contre les 6 principales maladies de l'enfance. Alors ce n'est qu'un aspect. Beaucoup d'efforts ont été faits pour mettre en place des structures de soins de santé, les soins de santé primaires, l'aide à la maternité pour essayer de faire baisser les taux de mortalité maternelle, les taux de mortalité infantile. Tout cela a été fait, mais rien de tel que des efforts que nous pouvons faire d'abord par nous-mêmes. Notre problème, c'est que nous attendons peut-être trop de l'extérieur. Et avec cela, on laisse les choses aller. Quand les structures extérieures ne peuvent pas nous aider, et d'abord, même quand les structures nous aident, aide-toi et le ciel t'aidera, il faut que ce soit fait essentiellement par nous-mêmes. L'assistance qui vient ne peut venir qu'en supplément des moyens financiers, des ressources humaines. Nous avons formé, il y a plein de cadres formés chez nous, mais c'est des cadres qui manquent de moyens. Nos malades vont en Afrique du Sud, la plupart du temps, ce sont des médecins congolais qui les soignent, qui les reçoivent en Afrique du Sud et qui sont réputés très bons médecins. Mais chez nous, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons. Au contraire, c'est simplement parce que l'environnement technique dans lequel ils travaillent ne leur permet pas d'être aussi performants. Donc il y a des efforts que nous devons faire.
Nous allons clôturer cette émission dans quelques secondes. Je vous invite à suivre ce second témoignage de quelqu'un qui vous connaît et que nous avons joint encore pour vous.
Je m'appelle Aubert Milangwe Kakuji. Je suis le fils de Jean-Marc Milangwe, le deuxième de 7 enfants, 4 garçons et 3 filles. Papa, pour tout ce qu'il a accompli dans sa vie professionnelle, comme dans sa vie de père, aujourd'hui on est encore autour de lui. C'est notre exemple le plus marquant, notre référence la plus élevée. En tout cas, pour ce qui est de l'éducation, la conduite dans la vie, l'humilité et tout ce que vous pouvez imaginer d'autre. C'est vraiment le chemin pour nous.
Et si on devait poser une question gênante, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez votre père?
Bon, papa est exigeant. Il est exigeant, c'est pas que je n'aime pas, mais je crois qu'il est très exigeant parce qu'il l'a toujours été toute sa vie. Et c'est quelque chose qui nous a inculqué lui aussi. Moi, je sais, par exemple, il se retient beaucoup. Par exemple, quand je saisis ses textes, etc. Vous savez, moi, je travaille en même temps, donc il arrive que je n'ai pas le temps. Mais il demande beaucoup. Et on est souvent obligé de s'appliquer. D'ailleurs, il a toujours été appelé par ses amis, ses compères, Mwalim ou Jonas, parce qu'il a enseigné dans le temps. Donc, c'est ce que je retiens de plus aussi. Donc, papa avec une baguette, pas qu'il nous frappait, non. Bon, le seul message que je peux avoir, c'est que d'abord qu'il reste encore avec nous pendant encore longtemps, et qu'il continue à écrire ses mémoires.
Réaction Jonas Milambwe, vous étiez très attentif, très ému.
Oui, je ne sais pas s'il faut que je réagisse. S'il faut que je réagisse. Si je réagis, je risque d'utiliser la baguette. Donc je crois qu'il a effectivement relevé un trait caractéristique de ma manière de vivre avec eux. Vous voyez, j'ai eu 7 enfants. Je les ai tous amenés à l'enseignement supérieur. Je n'ai qu'une seule fille, l'aînée de mes enfants, qui a reçu une bourse d'études. Les 6 autres, je leur ai donné une instruction, une éducation au niveau le plus élevé, et je l'ai fait avec mes propres moyens. Donc, il faut dire aussi, j'ai eu de la chance. Petit broussard sorti d'Ankoro, j'ai gravi à coup d'effort des échelons jusqu'à aborder l'enseignement supérieur. J'ai pu faire l'enseignement supérieur en Belgique. Je suis enseignant de français et d'histoire au niveau de l'enseignement secondaire. Mais j'ai été formé par l'UNESCO, par les Nations Unies, à l'administration prévisionnelle, statistique scolaire et planification d'éducation. Mais avec tout ce que j'avais comme acquis, j'ai été très exigeant. Tous mes enfants ont pu aller jusqu'au bout, jusqu'au diplôme d'État et au-delà du diplôme d'État dans l'enseignement supérieur. Au niveau familial, j'essaye de les accompagner tant que je suis encore là. Et c'est ce que j'essaye de faire avec eux.
Alors pour clôturer cette émission, un petit message à tous les jeunes Congolais qui vous suivent et surtout à ceux qui vous suivent à Ankoro.
À ceux qui nous suivent aujourd'hui, je leur rappelle un exemple. C'est, nous sommes en pleine installation
investiture
de Barack Obama.
Et là, vous me remettez une photo où votre fils est avec Barack Obama.
Ouais.
Je la montre aussi à notre technicien Dieudonné.
Voilà un homme qui est parti de rien, mais qui a cru en ses potentialités. Et il est allé jusqu'au bout. J'ai dit, pour les enfants d'Ankoro, comme pour tous les enfants de ce pays, comme pour tous les enfants d'Afrique, il faut beaucoup d'efforts, il faut jamais rien négliger. Nous avons tous reçu en naissant un potentiel, mais il faut mettre en valeur ce potentiel à force d'efforts, et souvent grâce à cela, on peut arriver très très loin. Aujourd'hui, c'est extraordinaire qu'un enfant noir, né dans des conditions les plus ordinaires, soit aujourd'hui président de la plus grande nation du monde.
Jonas Milamboué, merci d'être venu à Grand Témoin.
C'est moi qui vous remercie, papa Alain.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais Jonas Milamboué Mukalai, ancien secrétaire général de l'Éducation nationale et ancien représentant de l'UNICEF dans plus de 15 pays africains, à la technique Dieudonné Nyangassa, à la présentation Alain Hirung. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci à tous ceux qui nous suivent à Ankoro dans la province du Katanga et partout dans le monde.